What is this, Connor? Easy, old man. She's not hurt?
No, wounded,
sir. It's
been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose fattissimo. Papa fattissimo.
Bonjour à toutes et à tous et à tous et à toutes, bonjour tous les cinéphiles du vendredi et bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche avec fougue et fagacité. À l'affiche aujourd'hui du cinéma tout frais et néanmoins déprimé et la rediff des braises, deux braises réchauffées la semaine dernière, mais comme souvent les bons petits plats sont encore meilleurs réchauffés après la deuxième cuisson. Avec nous dans le studio... Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour Sophie, bonjour Sylvain, bonjour toutes et tous.
Qui vient nous parler de Springsteen, Deliver Me From yes. Nowhere. Bisous Sylvain.
Bisous toutes et tous.
Et également avec nous, par les joies de la rediffusion, il y aura Alexis qui nous parle des braises, qui sont toujours à l'affiche là, et qui sera d'ailleurs au programme des Rencontres des Cinémas d'Europe. Et Cathy, bien sûr, qui nous dira un mot des Rencontres des Cinémas d'Europe. Mais allez, sans plus tarder, on commence en musique.
No, put Born in the USA on the shelf. I want this record to feel different.
The label, once you have your first top 10, they want three for the next.
Well, we've never been about singles, but the whole story. Just trying to break a little new ground.
We got a little time, just not a lot.
You know I'm not a mixer.
I'm not making a record, Mike. Don't need to be perfect. I just want it to feel right.
Then you found your man.
That night we met. Is that your first time at the Pony?
I've been going to the Pony since they've been letting me in at the Pony.
He's channeling something deeply personal.
Springsteen, lui-même. Deliver Me From Nowhere, de Scott Cooper, avec dans le rôle de Springsteen, Jeremy Allen White, mais aussi Jeremy Strong, qu'on oui. peut voir, Paul Walter Hauser. Alors... Tu viens nous parler de ce film, justement, avec fougue.
Oui, je te remercie, Sophie, je remercie Sylvain d'avoir ouvert le micro pour que les cinéphiles locaux puissent s'exprimer et parler de leur passion. Ici, pour un film, bien sûr, mais aussi et surtout pour The Boss, Bruce Springsteen. Alors oui, un film qu'on attendait avec impatience, mais aussi un petit peu d'anxiété, peur du gâchis, et puis pas du tout. Il se trouve que le film est d'une grande intelligence. Je dirais que c'est la première caractéristique de ce film à la fin de la séance. D'ailleurs, quand on commence à discuter avec les spectateurs, c'est un peu ça, de ça dont on partage l'intelligence de Springsteen, l'intelligence du film, l'intelligence de la carrière de Springsteen, et puis cette chose qui réunit les fans de Springsteen, qui est très particulier. Les fans de Springsteen sont des gens qu'il apprécie réellement humainement, qu'il admire évidemment, mais il n'y a pas cette idolâtrie qu'on rencontre souvent. Donc c'est une atmosphère, encore une fois, plus intelligente que parfois dans les fan clubs. Voilà, parce que j'espère que je vexe personne. Mais enfin, disons que c'est assez palpable entre amateurs de Springsteen. Oui, ce film est intelligent parce que il n'a pas la prétention de nous raconter toute la vie de Springsteen, ce qui serait inutile et incertain.
Ce qui était déjà le cas, par exemple, dans A Complete Unknown, où il y avait seulement quelques années de la vie de Bob Dylan qui était raconté.
Voilà, c'est ça, exactement. Et Springsteen s'en ouvre, d'ailleurs, au cours d'une interview avec Jeremy Allen White, qui l'incarne dans le film, Il n'aurait pas aimé un biopic classique. Il n'aime pas les biopics classiques. Ici, l'intérêt, c'est de nous montrer un moment de la vie et de l'œuvre de Springsteen et de nous montrer un moment dans sa particularité. Alors, je m'explique rapidement parce que sinon, ça ne va pas être clair. Voilà, on chope Springsteen après son cinquième album, double, The River. Et Springsteen est une vedette, déjà, qui est en train de devenir une star. Et tout le monde le sent venir. Et donc, on va attraper Springsteen à un moment soit de nouveau départ, soit de chute libre, d'une certaine manière. Et on va voir Springsteen dans sa vie personnelle. On va voir Springsteen dans son itinéraire de grand créateur. Et enfin, on va voir Springsteen dans sa carrière de rockstar. Alors, du point de vue, ce qui intéresse, je crois, le plus les fans, c'est le moment de l'artiste. Et on sait que Springsteen avait déjà réussi le tour de force d'inventer un son dans une période où, sur la côte Est en particulier, mais pas que aux États-Unis, La scène rock est ultra foisonnante. Hein. On est en 73 quand il sort ses deux premiers albums, en 75 quand il sort Born to Run. Et dans cette scène foisonnante rock de l'époque, eh ben, il apparaît. Et il apparaît avec son son, avec ses paroles, avec le sens du lien sur scène entre les gens qui jouent avec lui et lui, quoi. Et c'est ça qu'on sent. The River, c'est le double, c'est le sommet de la montagne. Moi, beaucoup de d'amateurs de Springsteen l'ont connu en 80 avec The River. Mythique, album mythique, et là, l'envie de faire complètement autre chose. Et c'est l'écriture de Nebraska. Nebraska, c'est un nouveau son, une nouvelle expression. Il s'isole, il écrit les textes, il enregistre dans sa maison avec une toute petite table 4 pistes, un radio cassette, parce que c'est quelque chose pour celui qui a enregistré The River dans un des meilleurs studios de New York, c'est-à-dire du monde, c'est quand même très étonnant. Et donc on a un coup d'œil sur un moment d'une création artistique assez unique, pour pas dire unique, et où on voit The Boss avec une de ses caractéristiques, c'est que c'est un homme qui est savant. Si vous lisez son autobiographie Born to Run, au début, il faut s'accrocher tellement c'est foisonnant de références musicales. Il a une connaissance de la musique qui est exceptionnelle et c'est dans cette histoire de la musique qu'il connaît parfaitement qu'il s'inscrit.
Et Deliver Me From Nowhere.
Alors c'est l'homme. C'est-à-dire que c'est la dépression.
Délivre-moi de nulle part.
Délivre-moi de nulle part, c'est la dépression. Évidemment, ça nous renvoie. Alors là, j'ai, comme fan de Springsteen, j'ai été très étonné parce que je n'avais pas lu la bio dont le film est une adaptation. Je ne savais même pas qu'elle était traduite. Elle est de 2023. C'est la dépression au sens le plus classique du terme qui nous renvoie. Et donc, c'est filmé en flashback en noir et blanc à son enfance. Il est d'un père irlandais, d'une mère italienne. Le père est buveur, violent. Et le petit garçon, qui a 8 ans dans les passages qui sont filmés en noir et blanc, bah, il a des envies de parricide, tout simplement. Et ces envies de parricide, bah, il les porte sous forme de culpabilité. Et de culpabilité par rapport à des parents et à un père qui, par ailleurs, font beaucoup pour lui et épouse la légende américaine en partant de la côte Est, du New Jersey, pour aller s'installer en Californie en vue d'avoir une vie meilleure. Et dans le film, on va voir Springsteen tout plaqué pendant l'enregistrement de Nebraska pour,
on ne sait pas pourquoi, fuir en Californie.
Et cinématographiquement, c'est pas un peu trop... Alors, donc, je ne l'ai pas vu, je me permets, hein, mais ces flashbacks explicatifs, psychologiques, ça alors, fonctionne, ça fonctionne
oui,
pas, c'est pas
alors,
un peu tarte à la crème.
Une fois de plus, ta question me permet de bien me remettre sur les rails, c'est-à-dire qu'effectivement, si on rajoute le troisième point, à savoir expliquer sa carrière, on se dit, mais comment on peut se sortir de tout ça ? Et effectivement, il y a un effet puzzle, il y a un effet complexité, et avec les risques, effectivement, éventuellement, à l'intérieur de ce puzzle, d'un certain nombre de clichés. Mais c'est pour ça que je parlais d'intelligence pour ce film, c'est-à-dire il réussit le mixage. Exactement comme Springsteen a réussi le mixage de Nebraska dans sa chambre, dans son salon, lui, il réussit le mixage de tout ça, parce qu'effectivement, on voit Springsteen prendre une pause dans son élévation de carrière. Vraiment, il va devenir une star. Hein. Et vraiment, il est déjà une vedette. Il va jouer dans des petits clubs avec les potes. Quand il sort, les gens sont étonnés de le voir là, parce que c'est déjà l'homme qui a tourné avec The River. Quoi. Donc, c'est, on voit cette capacité qu'il a eue de faire le point, y compris sur l'espèce de voie royale qui lui était ouverte à ce moment-là.
Et justement, incarner The Boss, est-ce que Jeremy Allen White tient
alors,
les promesses, les attentes, je ne sais pas, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la bonne personne ?
Merci bon encore pour cette question, car nous, j'y venais. Oui, effectivement, pour le dire rapidement, et puis tu l'as fait, on ne peut pas s'empêcher de penser à Timothée Chalamet, qui incarne comme il peut Bob Dylan. Alors là, Jeremy Allen White, en tout cas pour nous, il présente l'avantage de ne pas faire écran entre lui et le personnage. Bon, ici en France, je pense que personne ou à peu près ne connaît vraiment Jeremy Allen White, enfin je ne sais pas. Par conséquent, on voit Springsteen. Et il a réussi à choper les deux, trois attitudes, les deux, trois expressions de visage qui font qu'on est en face du boss. Et non seulement ça, mais je pense que l'autre chose, c'est-à-dire il n'en fait pas trop, il ne fait pas écran. Et je crois que la troisième chose, c'est que Springsteen était sur le plateau. Et ils étaient en contact permanent dans une espèce de dialogue dans lequel Jeremy Allen White se débriefait auprès de Springsteen pour savoir est-ce que je suis juste, est-ce que j'en fais pas trop, est-ce que j'en fais pas assez.
Ça, c'était l'une de mes questions. Tu l'as abordé un petit peu. Collaboration avec Springsteen,
oui.
Il était là.
Oui.
Jusqu'où
ouais.
Il accompagnait ce film, Springsteen
Jusque sur le plateau.
Jusque sur le plateau, il a
de
vu,
tournage.
Il
oui.
a validé ce qu'on lui a demandé,
oui.
Voilà, le
oui.
final, la prod.
Oui. Complètement,
okay.
complètement validé. Et je...
Donc, c'est un film officiel.
Oui, mais officiel au sens de Springsteen, c'est-à-dire oui. en même temps intime.
Oui,
c'est c'est ça qui est vraiment important. Moi, j'étais surpris d'ailleurs. Alors, du coup, en filigrane, on a un quatrième Springsteen. C'est le Springsteen engagé socialement. C'est le mec qui supporte pas que ses places de concert atteignent des prix faramineux au marché noir. C'est le mec, voilà, qui va toujours faire des dates supplémentaires pour que les gens puissent venir le voir, etc. Et puis c'est aussi le Springsteen politique. Bon, c'est quand même un fervent soutien des démocrates depuis très longtemps. C'est un ami personnel d'Obama maintenant. Quand Obama lui remet la médaille de la liberté, Obama dit « I'm the president, but he's the boss ». Voilà, donc c'est ça. C'est le soutien politique et social de Springsteen auprès de ses fans et du public américain en général, alors qu'il est possiblement... le représentant d'une partie des gens qui votent Trump. Il faut quand même bien voir ça. Il a derrière lui les gens amateurs de country, de bluegrass, etc. Donc, il est un vrai soutien intéressant de la cause réellement progressiste aux États-Unis.
Bah, merci beaucoup, je pense qu'on l'aura entendu. En tout cas, tu as donné envie d'aller voir Springsteen Deliver Me From Nowhere, qui est actuellement sur les écrans à Aubenas, Rosières-lès-Vence. Je ne sais pas si on a le temps de s'écouter un petit peu de Springsteen. Oui. Oui.
Well, I had the carburetor, baby, cleaned and checked. With her line blown out, she's humming like a turbojet. Propped her up in the backyard on concrete blocks for a new clutch plate and a new set of shocks. Took her down to the car wash, checked the plugs and points. Well, I'm going out tonight, I'm gonna rock that joint. Early North Jersey industrial skyline, I'm an all set cool burjet creeping through the night time. Gotta find a gas station, gotta find a payphone. This turnpike sure is spooky at night when you're all alone. I gotta hit the gas, babe, I'm running late. It's New Jersey in the morning like a lunar landscape. While the boss don't dig me, so he put me on the night shift. Takes me 2 hours to get back to where my baby lives. In the wee hours, your mind gets crazy. Radio relay towers, won't you lead me to my baby? Neath the overpass, the trooper hits a party light switch. Good night, good luck, 1-2, power shift. I met Hawanda when she was employed behind the counter at the Route 60. Bob's big boy, fried chicken on the front seat, sitting on my lap. We're wiping our fingers on a Texaco road map. I remember Wanda up on Scrap Metal Hill with them big brown eyes that make your heart stand still. Hell, yeah, it's 5 a.m. The oil pressure's sinking fast. Gotta make a pit stop, wipe the windshield, check the gas. Gotta call my baby on the telephone, let her know that her daddy's coming on home. Sit tight, little mama, I'm coming round. I got 3 more hours, but I'm covering ground. Your eyes get itchy in the wee hours. Sun's a red bull rising over them refinery towers. Radios jammed up with gospel stations. Lost souls calling long distance salvation. Hey, Mr. DJ, won't you hear my last prayer? Hey, ho, rock and roll, deliver me from the wire. Hey, the lot and deed out, lead on down. Hey, the lot and deed out, lead on down.
Oh, il rigole. C'était un morceau en live de Nebraska, Open All Night, qui date d'il y a quelques années apparemment. Oui, on l'entend, il a bien 70 balais. Et tu disais, Olivier, on sent toutes les fêlures. Et oui, Open All Night, bah, oui, ouvert toute la nuit, il a traversé la nuit.
Oui.
Et nous avec plaisir. Donc, je rappelle, Springsteen, Deliver Me From Nowhere, le film de Scott Cooper est à voir sur nos écrans en Ardèche. On continue ce cinémascope, comme je vous le disais, avec un autre film. Il y a plusieurs films concernant les Gilets jaunes, mais il y a celui-ci.
C'est qu'on est plus de 300 000 depuis ce matin.
Le groupe Facebook sur lequel je me suis inscrit.
Ah, sur la hausse du gasoil.
Il y a même un rassemblement qui se prépare samedi.
Il y a une manif.
Jimmy, j'ai envie d'y aller.
C'était bien.
C'était beau. Je sais pas comment dire, c'est notre pays, quoi.
Ça sert à rien ce que vous faites là. Je veux dire, c'est pas de ta faute, mais ça changera rien du tout.
J'ai envie de croire qu'on peut essayer de rendre le monde moins con.
Moi je vais sur un rond-point, j'apprends, je rencontre des gens, je lis, j'écoute. Et c'est à nous maintenant d'être endurants.
On va casser les couilles à tout le monde avec ces gilets jaunes.
Les braises de Thomas Krutoff, qui avait fait Les Promesses avec, on l'a entendu, Virginie, Efira, Arié, Vortalter, notamment. Un film qui semble resserré sur l'intime pour extraire un peu tout le jus politique. Alexis, tu as vu ce film et tu voulais en parler.
Ouais, j'ai vu ce film et bon, là c'est changement d'ambiance complet pour le coup. Et en fait, bon, donc c'est réalisé par Thomas Krutoff. Et moi, j'étais interloqué un petit peu par déjà le titre qui est Les Braises, et je veux dire même Moi, je trouve que c'est un beau titre pour ce film-là, parce que, alors, je voulais faire le parallèle. Les vrais, ce sont donc les restes du feu qui continuent à brûler doucement. Et en...
Eh bien, Alexis, tu viens de nous quitter, ou alors tu as un double appel, mais on ne peut pas décrocher pour toi, donc il faut faire quelque chose.
Oui, je suis là.
Oui, donc tu commençais à parler des braises, et tu nous disais que donc, ce film, Les braises de Thomas Kruithof, qui avait fait Les promesses, c'était un titre de film intrigant.
Intrigant, ouais. Et en fait, j'étais en train de raconter un petit peu juste... Bah, on suit le couple de Karim et Jimmy, qui était un couple qui vit tranquillement dans une petite ville. Et puis, en fait, c'est deux personnages qui bossent, qui ont un travail de classe moyenne, on va dire des gens un petit peu lambda. Et puis, il y a le mouvement des Gilets jaunes qui arrive comme ça. Karim, qui est jouée par Virginie Fira, elle se découvre une militante investie. Et là, c'est tout bascule, en fait. Ça bouleverse le quotidien, le couple, la vision du monde, totalement. Et c'est vrai que ça peut poser question, même dans la vie quotidienne, sur l'engagement, nous, en tant que citoyens, dès qu'il y a quelque chose qui va se révéler, un mouvement, quelque chose qui nous touche, ça peut toucher le quotidien. Et moi, ce que j'ai adoré donc dans ce film, c'est que justement, il y a une tension qui se crée entre le collectif, qui est donc ce mouvement, et l'intime, qui est le quotidien personnel. Et en fait, dans ce film, on est à la fois dans la rue, donc forcément sur les ronds-points, mais aussi à la maison, donc on voit l'impact des deux. Et dans ce film-là, il y a beaucoup, beaucoup de silence, beaucoup d'incompréhension entre les deux, parce que le mari ne comprend pas ce qui se passe, voilà. Et pour moi, c'est un film qui montre comment l'engagement politique peut vraiment percuter sur la vie privée. Et pour moi, le film ne caricature jamais et ne juge pas. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est vrai que sur ces mouvements-là, on peut très vite juger d'un côté ou d'un autre. Et là, c'est pas ce que fait le film, et je trouve ça important. Et si je peux vous donner une petite anecdote, le film, il a été tourné en Charente, donc sur des vrais ronds-points, avec des figurants qui étaient locaux. Et je trouve ça important, ça apporte vraiment quelque chose, une authenticité sur le film qu'on ressent. Et ça fait presque une vérité de documentaire. Et je trouvais ça intéressant. Et donc moi, j'incite les gens vraiment à venir, parce que c'est un cinéma social et engagé pour le coup.
Voilà. Et il sera à partir de mercredi, mercredi 12. Est-ce que tu as vu déjà Dossier 137, toi, Alexis?
L'autre film, on a mon premier, mais j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir encore. J'ai que des bons retours sur le film, par contre.
Et toi, Cathy, est-ce que tu as vu?
Oui, je l'ai vu à Cannes, à Dossier 137.
Dossier 137, on en parle, puisque c'est un film de Dominique Moll qui va sortir là, dans deux semaines, et qui parle aussi, qui traite de ce mouvement des Gilets jaunes.
Oui, mais alors là, manière... sur la police des polices, quoi, on est sur un autre niveau de narration, en fait, où il y a des enquêtes, où on sait bien qu'il y a eu des dérives policières pendant... ces manifestations, et que là, on a un personnage interprété par Léa Drucker qui enquête sur des policiers et voir s'ils ont véritablement dérivé ou pas.
Ce sera à découvrir pendant les rencontres.
Pendant les rencontres, exactement.
Il nous reste 10 minutes, super, pour parler des prochaines rencontres des cinémas d'Europe. Avec toi, Cathy, puisque tu en es la programmatrice et puis la grande instigatrice. Alors, ces rencontres des cinémas d'Europe, parle-nous-en un petit peu des focus, de là où ça va nous envoyer.
Je tiens à préciser quand même qu'au niveau de la programmation, cette année, on a composé beaucoup plus avec Christophe du Navire. On a beaucoup plus échangé quand même sur les films et sur les invités. Et puis que la partie jeune public, elle est pratiquement assurée par Véronique Borges, qui est médiatrice de la Maison de l'Image. C'est important de le signaler quand même. Même si en soi, je peux avoir le final cut en tant que directrice artistique, mais il n'empêche que on compose aussi avec...
C'est un travail d'équipe.
Un travail d'équipe,
exactement. Bon, donc c'est 27e rencontre des cinémas d'Europe. Je n'ai pas dit qu'il aura lieu pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, du 15 au 23 novembre à Aubenas.
Et Vals, et Tueil, et Lussas.
Et Lussas, bien voilà, sûr. Oui. Pam, dans ton bec. Vas-y.
non, mais c'est important de parler de aussi de ces séances autres décentralisées, oui. Parce que comme des fois, c'est un peu compliqué au navire d'accéder à certains films par X raisons. Voilà. Il y a aussi ces séances décentralisées qui peuvent permettre d'avoir un petit peu une bouffée d'air et de sortir un peu d'Aubenas. Et puis, ça nous permet d'étendre le festival sur le territoire. Donc, c'est important. Mm-hmm.
Alors pour ce festival, vous avez décidé d'un voyage en Pologne.
Oui, le voyage en Pologne, il est né de mon déplacement l'année dernière au festival du film polonais de Gdynia sur la mer Baltique, où j'ai rencontré à la fois Joanna Lapinska, la directrice artistique qui va nous faire le plaisir de venir cette année, et j'ai découvert plein de films polonais, de qualité, vraiment, j'ai été assez impressionnée par le nombre de films qui étaient programmés lors de ce festival, et là, il y a une compétition, et moi, je faisais partie d'un jury SICAE, donc la Confédération Internationale des Cinémas d'Art et Essai, dont une grosse partie est quand même basée en Europe, et j'avais 14 longs-métrages, dont des seconds longs-métrages, en fait, à découvrir, et j'ai été vraiment impressionnée par cette programmation. D'où l'idée d'inviter Joanna pour qu'elle nous fasse une carte blanche. Et donc, elle a choisi 5 films, des longs et des courts-métrages. Et puis, surtout, ce dont je suis très fière, c'est d'accueillir Agnieszka Holland, que je rêve d'inviter depuis des années parce qu'on suit son travail. Hein. Voilà, tous les
incroyable
films précédents.
Ouais. Incroyable. Ouais. On a l'impression qu'elle fait le grand écart aussi. Entre quelquefois la réalisation de House of Cards, Trem, donc dans des séries, et puis des films comme celui qu'on a pu voir l'année dernière.
Il y a le Green Border. Oui. Et là, c'est encore différent. Enfin, c'est vraiment une cinéaste qui sait se renouveler et qui propose à chaque fois un film différent qui a aussi une maîtrise, elle, de la caméra assez folle aussi. Et là, dans Franzka, on revient sur le personnage de Franz Kafka dans sa jeunesse, qui de toute façon n'a pas eu le succès dans sa jeunesse, mais après sa mort. Donc, avec quelque chose de très très moderne dans la réalisation, c'est ce que j'apprécie. Voilà, donc ça c'est une grande fierté, c'est en plus d'accueillir Agnieszka Holland pour ce festival, ouais.
Génial, et donc ouais, un film, le cinéma polonais vraiment à découvrir à travers...
Alors une petite partie malheureusement, oui, parce qu'on n'a pas consacré l'entièreté de la programmation au film polonais, mais en tout cas, il y a la présence donc de Joanna et d'Agnieszka Holland, mais Joanna nous expliquera un petit peu aussi à travers sa rencontre qui sera le dimanche soir dans la continuité de la projection du film Brother, qui était un film en compétition au festival cette année, de nous parler de la production polonaise, comment ça se passe, pourquoi chez nous il y a peut-être 2 films qui sont distribués par an, alors qu'il y a une production quand même très très importante du cinéma polonais.
Et alors, intéressant, tu nous disais là hors micro avant, parce que ça les gens ne le savent pas forcément, c'est des films qui n'ont jamais été montrés par exemple en France, et donc là, très concrètement, là, pour les rencontres des cinémas d'Europe, vous êtes obligés de faire les sous-titrages.
Exactement. Oui. Il faut. On a des versions qui sont anglaises, puisqu'elles sont quand même présentées en compétition à Gdynia en sous-titres anglais. Pas tous d'ailleurs, mais la plupart. Et là, il faut qu'on fasse aussi ce travail de sous-titrage des films avant de pouvoir les montrer aux spectateuristes des rencontres.
Des perles, des pépites, donc jamais vues, à voir pendant les rencontres.
À découvrir, ouais.
J'ai l'impression, mais ça c'est peut-être tout à fait subjectif, qu'il y a beaucoup plus de films européens non français, je veux dire, que par exemple l'année dernière ou il y a 2 ans. Est-ce que c'est...
Oui, c'est vrai. C'est, je pense que c'est un peu l'influence aussi de Europa. Enfin, on voulait aller vers le soutien de Europe Média. Bon, mais c'était aussi une volonté d'accentuer quand même les films les films européens, parce qu'on peut aussi voir que sur l'ensemble de l'année, on a une production française qui est forte. Bon, ben, bien sûr qu'il faut continuer à soutenir pendant ce festival, mais ça s'appelle les rencontres des cinémas d'Europe, et on est sincèrement persuadé qu'il faut que les publics puissent découvrir des œuvres venant d'Europe et pas forcément que de France.
Quelle grande chance, c'est pour ça qu'on vient et qu'on rencontre régulièrement, pas plus tard qu'hier encore dans ce studio, des personnes qui posent des jours de congé pour aller voir le plus de films possible, justement venant d'horizons complètement, enfin justement, inconnus en France.
Mm-hmm. Enfin, oui, ou très peu médiatisés. Et c'est vrai que ça a été le cas particulièrement cette année, où beaucoup de films sont sortis également dans l'année, qui n'arrivent pas à trouver une place dans le nombre. Bon, on le rappelle, hein, il y a 15 à 20 films différents qui sortent chaque semaine en France. Donc, c'est très difficile pour les salles de cinéma d'absorber toute cette offre. Et forcément, ben, il y a des choix et des pas de côté qui sont faits rarement. Et donc là, c'était important que pendant ce festival, on puisse rattraper quelques films qui ont toute leur place et qui sont à montrer au...
Tu penses auxquels, par exemple, en disant ça?
Oh, ben, il y a par exemple... alors, c'est Au rythme de Vera, mais c'était pas ça le titre. Enfin, c'est un film allemand. Il y a Another Hand, un film qui est espagnol à la base et qui a été tourné en anglais. Enfin, il y en a pas mal. Hein. Ouais.
D'autres grandes...
Mikap, un film irlandais. Il y en a pas mal, ouais.
J'ai l'impression qu'on va se régaler.
J'espère.
Autre grande ligne directrice du festival?
Bah, toujours notre envie de parler des métiers du cinéma, et là à travers deux rencontres qu'on appelle rendez-vous avec, hein, mais ce sont en fait comme des masterclass ou leçons de cinéma. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir parler d'un métier. Et cette année, on va parler de la coordination d'intimité, qui est de plus en plus nécessaire et importante sur les tournages.
Tu dis juste en un mot ce que c'est ?
Alors, la coordination d'intimité, ce sont des personnes qui travaillent au plus près des cinéastes et des acteurs, actrices, sur toutes les scènes intimes, un peu difficiles à réaliser. Donc, l'année dernière, par exemple, on montrait le film Maria de Jessica Palud, qui revenait sur la carrière de Maria Schneider et sur le traumatisme vécu sur Le Dernier Tango à Paris, puisqu'elle ne savait absolument pas ce qui allait se passer dans la scène suivante. Donc, entre les années 70 et maintenant, il n'y a que maintenant, c'est-à-dire depuis septembre 2025, qu'une formation reconnue est mise en place pour reconnaître la nécessité d'avoir des coordinateurs d'intimité sur les tournages, parce que, les acteurs, actrices, ils sont censés savoir jouer, entre guillemets, la comédie, mais se retrouver sur une scène intime avec quelqu'un qu'on connaît pas, c'est pas forcément très très évident, quoi.
Et alors, où est la sincérité là-dedans? Mais c'est une... une petite parenthèse.
C'est du jeu, c'est sûr. Sarah Camidian viendra nous parler de son travail de coordinatrice d'intimité. Et puis nous recevrons aussi, je suis très contente de l'accueillir, Pauline Seglon sur le travail de production. À quoi sert un producteur?
Ah, excellente question, merci.
Voilà, et donc elle nous expliquera quel est son travail, surtout qu'elle a un parcours intéressant et qu'elle est venue à la production il n'y a pas très très longtemps, et c'est comment, avec tout ce qui nous est proposé quand même au cinéma maintenant, comment on fait le choix d'aller dans la production cinématographique.
Merci, ça y est, temps est imparti.
Il y a plein de choses à retrouver sur le programme, sur le site internet www.rencontrecinema.eu.
Merci beaucoup, Cathy, puis on aura l'occasion d'en reparler. Et bien sûr, vous le savez, nous serons, nous, Fréquence 7, alors cette année à la médiathèque, pour donner la parole aux invités tous les jours à midi et 17h. Des bisous, merci à tous, ciao.